On l'a déjà expliqué, ce qui détermine la solidité d'une clé de chiffrement et sa difficulté à la prédire. À cette fin, sa construction doit être le fruit du hasard, d'un hasard particulièrement rigoureux. Un bon hasard nécessite un générateur de nombres aléatoires dont la qualité principale est l'impossibilité de pouvoir prédire quel nombre est sorti après un autre. En fait, le choix de ce générateur ne peut être confié au hasard. On peut donc exclure la forme des nuages, le nombre d'étoiles dans un carré de ciel ou le dessin du marque de café au fond des tasses. Je ne donne que des exemples fantaisistes. Tiens, toi, plutôt cronchonné, prends plutôt les dés là qui sont sur le paquet de cartes, là-bas, on va jouer, tu vas voir. Si vous lancez un dé et que vous obtenez un 3, la fois suivante que vous lancez ce dé, vous aurez toujours la même probabilité, une chance sur 6, d'obtenir un 3.
C'était un 5.
C'est de la radio. Seulement, les défauts du 10 dé, la manière de le lancer, sa surface de réception, peuvent influencer sur cette probabilité, au point qu'elle ne soit plus uniforme pour chaque chiffre. Au début du XXe siècle, les services qui demandaient beaucoup de nombres aléatoires, principalement l'armée, la diplomatie et les services secrets qui avaient tous besoin de générer une quantité importante de clés de chiffrement, employaient des équipes qui tiraient des nombres au hasard, parfois au dé, et les consignaient dans de grands cahiers remplis de tableaux de G2D. Relance. Mais il arrivait que les personnes qui généraient ces suites de nombres fassent des corrections sur des résultats sortis, soit par zèle, soit involontairement. Des modifications qui induisaient un biais et donc une faiblesse. Les premières recherches sur un tirage de dés de chiffrement parfaitement dû au hasard datent de la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Mais on est resté sur des dispositifs actionnés par des humains ou des relevés de résultats par ces mêmes humains, donc risquant des erreurs. Puis on est passé sur les coûts des radiations émises par des matériaux radioactifs. En effet, la désintégration des atomes instables se fait au hasard et n'est pas influencée par la température ou les conditions chimiques.
Si vous avez un compteur geyser, des petits gars militaires, un équipement...
On n'entend rien.
Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans ? Je disais... Si vous avez un compteur Geiger et du plutonium militaire et l'équipement de sécurité adéquat, oui, security first, vous pouvez vérifier cette absence de variation en mettant le plutonium dans le frigo de votre pire ennemi. Dans le cas d'usage, le travail consiste à mesurer le temps entre deux désintégrations mesurées. Mais nous avons alors plusieurs inconvénients. Il faut une mesure du temps très précise avec un décompte capable de discerner deux événements à un intervalle ultra court. Sinon, on perdra forcément des désintégrations qui sont très rapprochées. Donc une introduction d'un biais dans les valeurs mesurées. Sur une écoute longue, on notera quand même une décroissance du rayonnement en fonction de la demi-vie du matériau. Soit la période d'écoute ne dépasse pas quelques mois, soit on a un matériau à la double vie qui se mesure en milliers d'années. Le produit utilisé demande forcément des précautions d'emploi draconiennes, ce qui veut dire monter un laboratoire extrêmement bien équipé et blindé pour la sécurité du personnel. Et bien évidemment, il faut blinder correctement l'appareillage électronique pour qu'il ne soit pas détruit par la radioactivité ou que celle-ci induise de faux décomptes dans les câbles électriques. En 1955, un laboratoire privé associé à l'armée américaine, la RAND Corporation, publie un livre « A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates ». Un million de chiffres aléatoires avec 100 000 déviés normaux. Cette somme de 600 pages est issue de l'observation d'un dispositif électronique de leur invention, basé sur la comparaison entre une fréquence instable et une fréquence stable. Techniquement, c'est le premier livre à transcrire un bruit blanc électrique. Une telle base de nombres aléatoires permit à de nombreux chercheurs d'avoir une source fiable de nombres tirés au hasard, ce qui se révéla utile en statistique, sociologie, sciences physiques et biologie. Ce livre a été réédité durant les années 2000 avec une préface de l'équipe dirigeante actuelle de la RAND Corporation. Outre son intérêt historique, les commentaires sur la page Amazon sont aussi à lire pour le lol. De nos jours, il existe parfois un circuit spécialisé dans le processeur, un True Random Number Generator, TRNG, qui remplace les solutions logicielles avec leurs algorithmes pseudo-aléatoires, dites PRNG, lesquels peuvent se retrouver prévisibles. Nous verrons dans un prochain épisode que l'écriture d'un algorithme PRNG peut même devenir un acte de sabotage aux répercussions politiques. Parmi les solutions complètement space, l'opérateur de data center Cloudflare a par exemple monté un mur de lampes à lave, non seulement pour décorer l'entrée de leur siège social, mais surtout pour générer l'entropie de ses clés de chiffrement à partir d'une webcam filmant l'ensemble. Le va-et-vient dans le hall introduit suffisamment de perturbations dans ces lampes pour les rendre moins prévisibles. Overkill, soit, mais totalement déco.